Salut, ici Stéphane Moïsakis. Si je suis aujourd'hui entouré de William Friedkin, Oliver Stone et John Woo, c'est parce qu'on sort une nouvelle revue Capture Mag, cette fois consacrée au cinéaste Tony Scott. Tony Scott est un cinéaste qu'on a toujours eu à cœur à défendre chez Capture Mag. Et comme le précédent numéro sur John Woo, nous cherchons vraiment à produire la revue la plus complète et la plus exhaustive sur la carrière de Tony Scott. Pour cela, nous avons interviewé plusieurs de ses collaborateurs, dont Shane Black, auteur du Dernier Samaritain, Brian Helgeland, scénariste de Man on Fire, la femme de Tony Scott, Donna, pour un portrait plus intime, plusieurs chefs opérateurs, dont Darius Volsky et Jeffrey Kimball, le chef d'écho Chris Seegers, le compositeur Harry Gregson-Williams, Patricia Arquette, Alabama en personne, et évidemment le producteur Jerry Bruckheimer. En tout et pour tout, il s'agit de plus d'une vingtaine d'entretiens qui couvrent l'ensemble de la carrière de Tony Scott. Cerise sur le gâteau, certains de ses collaborateurs nous ont ouvert leurs archives pour du contenu photographique inédit. Comme toujours, on a besoin de votre soutien.
Always have. Always will.
Capture Mag est une entreprise indépendante. Produire des revues de cette ambition a un prix. C'est pourquoi nous comptons sur le succès de ces campagnes de précommande pour vous proposer d'autres revues de cette qualité. Et n'oubliez pas, Tony Scott, forever.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui, je suis avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien, ça faisait longtemps.
Bonjour, ouais, c'est vrai.
Je crois que la dernière fois, c'était les maîtres de l'univers.
Ouais, ouais, dis donc.
Je crois, effectivement, hein, ouais. Mmh. Voilà. Donc, pour parler de House of Dynamite, je salue Jeanne à la technique.
Bonjour Jeanne.
Qui n'a pas de micro, mais qui nous salue elle-même aussi. Peut-être que elle va apparaître dans le reflet de
regardez bien.
Poster derrière, regardez bien, elle peut apparaître. Des fois, il y aura des réactions. Voilà, donc salut Jeanne, salut Julien. Et on va parler de House of Dynamite,
voilà,
de Catherine Bigelow, qui sort sur Netflix. Donc ce 24 octobre. Voilà, donc alors... On va peut-être quand même préciser quelque chose vraiment en préambule avant de commencer, parce que comme le film vient vraiment de sortir et les gens, enfin, et nous on publie l'émission à 17h, le film est disponible depuis 9h du matin, donc sachez qu'on va évidemment spoiler le film et que...
C'est très compliqué de parler de ce film sans le divulgâcher, c'est clair.
Exactement. Et donc du coup, ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut aussi préciser en préambule, c'est que nous on l'a vu en salle. C'est aussi important de le préciser, alors je vais faire une petite digression très rapide dès le début. En fait, il y a quelqu'un qui m'a pris à partie dans les commentaires sur Play Dirty en disant voilà que j'étais un peu dans le déni de la notion de voir le film sur plateforme et que finalement ça suffit très bien de pouvoir voir ça sur plateforme avec ce débit de streaming. Et je ne suis pas d'accord avec cette personne puisque
tu avais besoin de le préciser.
Non, mais j'avais besoin de le préciser parce que encore une fois, c'est très important en fait de pour moi en fait de voir les films qui comptent sur grand écran. D'une certaine manière et diffuser correctement. Au stade là, autant regarder les films en VHS. Évidemment, si tu regardes que des trucs de streaming, bon ben si tu regardes que
après,
ça comme ça.
Après, c'est vrai que c'est un peu triché. Enfin, c'est compliqué. Mais ça, c'est le même débat que pour la presse qui voit toujours les films en VO dans des bonnes conditions, alors que souvent les films. Moi, c'est un truc qui m'a frappé quand j'ai commencé à être journaliste. Quoi, t'avais ce luxe là, alors que tu te dis la plupart des gens voient les films en VF. Alors aujourd'hui, avec le numérique, fort heureusement, c'est plus le cas, mais avec des copies qui sont très usées, très fatiguées et tout. En tout cas, jusqu'en 2010, c'était encore le cas. Et nous, on a ce luxe-là. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est triché, quoi. C'est pas la même chose, de voir, en fait, un grand film à l'époque au Normandie en VO dans une copie neuve que de le voir, en fait, dans une petite salle de sa ville ou de
tout
son.
Bêtement, voilà. Pour moi, c'est la notion.
Et là, c'est un peu la même chose.
Voilà, la notion de pouvoir voir le film tel que le réalisateur l'a envisagé. C'est ce qui m'importe, moi, en fait, en l'occurrence.
Après, pour le coup, c'est un film qui a été directement, si je ne m'abuse, destiné à Netflix.
Oui, c'est un film qui a été...
C'est un film qu'elle a envisagé aussi comme... Elle a su, en fait, Catherine Bigelow, quand elle faisait, qu'elle le destinait, en fait, à...
Ça, c'est
à
une chose,
avec les gens
autant,
avec ça.
Pour autant, c'est une réalisatrice de cinéma. Et en fait, comme tous les réalisateurs de cinéma, en fait, je pense qu'elle a vocation, encore une fois, à ce que ces films-là soient vus par le plus grand nombre dans des salles. Et en l'occurrence, aux États-Unis... C'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, c'est un film qui est sorti en salle en exclusivité 2 semaines avant sa diffusion sur Netflix, le jour J, le 24, en streaming mondial, quoi. Voilà, donc ça c'était une petite précision parce que je pense que ça fait quand même la distinction. Moi, je sais que ça m'est arrivé de voir des films de qui sont sortis directement en streaming derrière, comme Bronx par exemple d'Olivier Marchal ou Sous la scène de Xavier Jans. Et comme je les ai vus en salle, je suis désolé, mais oui, il y a une différence. Il y a une vraie différence. Et c'est pas que le grand écran. C'est vraiment aussi, encore une fois, je veux dire, le streaming, la façon dont c'est diffusé, la copie qui décide de balancer, c'est pas la même chose. Donc, en fait, là-dessus, effectivement, on est un peu privilégié, faut le dire, quoi. Alors, House of Dynamite. Avant de commencer, on pitch. Le film, c'est assez simple. Vas-y, je t'en prie, Julien, c'est toi l'invité.
Ah bon, c'est,
oui, c'est toujours la personne en face de moi qui pitch.
C'est le récit très contemporain parce qu'il y a, il y a un événement en fait à l'intérieur du film qui date le film en 2025 très précisément. Donc c'est un film très contemporain sur une crise nucléaire, c'est-à-dire une attaque, une frappe nucléaire potentielle qui arriverait sur les États-Unis et on va suivre la réaction des États-Unis quasiment uniquement du point de vue des officiels et des dirigeants, on va dire ça comme ça, mais en commençant à une échelle relativement basse pour terminer au plus haut de l'échelle, c'est-à-dire avec le président des États-Unis. Voilà, en gros.
Bien résumé. Donc c'est en fait le même événement,
Oui, alors ça c'est autre chose encore.
20-25 voilà, minutes de récit, en fait, qui sont racontés sous trois points de vue différents. Donc t'as effectivement le point de vue des gens qui sont dans la cellule de crise et qui doivent réagir. Ensuite, t'as le point de vue des gens qui ont les missiles anti-sol-sol, enfin tiers-sol, les missiles. Le nom est spécifié, mais comme on n'est pas du tout des spécialistes de l'armée, on sait pas du tout, on sait plus comment ça s'appelle, quoi. Mais c'est les missiles qui sont censés contrecarrer les missiles nucléaires, quoi. Et une technologie qui
en gros, t'as les exécutants, t'as les donneurs d'ordre et t'as le Uber donneur d'ordre à la fin.
Pour donner beaucoup plus le truc, c'est que dans la deuxième partie, c'est les militaires et c'est le point de vue des militaires et la troisième partie, c'est le point de vue du président.
Un peu plus large que les militaires, mais.
Oui, bon, les militaires, les diplomates, voilà. Et en fait, alors, on est sorti du film hier et il faut quand même ça, on va le spoiler d'entrée de jeu. On est sorti du film d'hier et Julien s'est retourné vers moi, il me fait, j'ai pas du tout aimé Stéphane. Et je lui ai dit, ah putain, moi j'ai adoré. Donc, en fait, on se retrouve à confronter nos points de vue. C'est ça qui est intéressant sur ce film. Alors, il faut aussi rajouter un truc. On filmait pas à l'époque, mais on a fait un long podcast, Capture Mag, sur Catherine Bigelow, qui était jusque-là.
Beaucoup moins complet que ceux qu'on fait maintenant.
Oui, mais qui est quand même à date, parce que mine de rien, en fait, donc c'est de l'époque de David Ogier. C'est de l'époque, ça date de la sortie à l'époque de Détroit. C'était son dernier film jusque-là, jusqu'à House of Dynamite. Et
dernier long métrage à la FEDEC.
Voilà. Et du coup, en fait, bon, on complète avec ce podcast aujourd'hui. Donc, si vous voulez vraiment savoir tout le bien qu'on pense à la base de Catherine Bigelow, ça se passe là-bas. Le podcast est disponible sur, en tout cas, il n'est pas sur YouTube, mais il est sur notre site. Donc, vous pouvez le retrouver. Il est même, je crois, sur les plateformes pour le coup de podcast, parce que c'est qu'un podcast audio. Voilà. Alors, qui commence en fait, c'est-à-dire moi ce que je vais dire en préambule, mais je vais vraiment commencer juste par ce truc, quoi, c'est que, et apparemment c'est un des trucs qui n'a pas fonctionné du tout sur toi, c'est que très progressivement pour moi dans le film, peut-être pas en fait totalement au moment du premier du premier point de vue, j'ai commencé moi à être pris dans la tension en fait générale du récit, quoi. J'ai personnellement une grosse affection pour les films qui te foutent, comme j'aime bien dire, les couilles dans la cocotte minute, tu vois, et en fait qui te font bien pressuriser pendant tout le truc, et pour moi là-dessus ça a fonctionné, ce qui fait que je pense qu'il y a pas mal de choses que toi tu vas remettre en question qui, moi, passe à cause de cette logique-là. C'est-à-dire j'étais dans la tension du moment.
Il y a un truc de subjectivité, forcément, parce que c'est un film expérience, enfin, en tout cas ça se propose en fait comme étant comme ça, quoi.
D'où l'importance de le voir en salle aussi pour nous. En tout cas, je pense que c'est plus simple en fait de le vivre ça.
Après, encore une fois, moi, c'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois. Je pense qu'un grand film, de toute façon, même moi, il y a plein de grands films que j'ai découverts à la télé en 4/3, probablement encadré, que j'avais déjà adoré. Mais peu importe. Moi, je sais que le truc en ce qui me concerne, moi, c'est que c'est un film que j'attendais énormément. C'est probablement le film que j'attendais, un des films en tout cas que j'attendais le plus cette année, pour plein de raisons, notamment. Et alors ça, c'est moi qui avais une attente qui était complètement déplacée pour le coup, et je peux pas en tenir rigueur à Catherine Bigelow sur là-dessus. C'est que moi, j'attendais en fait d'avoir la rencontre de Catherine Bigelow avec Rebecca Ferguson, qui, moi, je trouve une actrice énorme et qui n'a pas encore vraiment rencontré, je trouve, un rôle à la hauteur de son talent. Et j'attendais en fait une rencontre comme ça entre cette réalisatrice et cette comédienne, comme il y a pu y avoir en fait sur avec Jessica Chastain en fait sur Zero Dark Thirty, qui est à mon sens un des meilleurs films de Catherine Bigelow et en tout cas très certainement un de mes films favoris des années 2000. Et ça, manifestement, 2010. Je l'ai. 2010 même, ouais, mais 2000 j'englobe les, okay. le quart de siècle. Bon, et ça, manifestement, je l'ai pas eu du tout. C'est-à-dire que c'est elle est circonscrite presque à un second rôle, mais ils sont tous circonscrits à un second rôle. Et ça, c'est vrai que il a fallu que je surmonte en fait ce petit truc. Mais encore une fois, c'est pas mon problème avec ce film-là. Je commence à te dérouler.
Vas-y,
ou pas,
je t'en prie.
En fait, le truc, c'est que moi, j'attendais le film donc d'une part pour ça, et d'autre part et surtout en fait parce que quand on s'intéresse un tant soit peu à la géopolitique actuelle, contemporaine, on sait très bien que malheureusement, et pourvu que ça ne se réalise pas hein, d'ailleurs, mais que on est dans une situation où on est pré-guerre en fait, comme on l'a rarement été en fait dans l'histoire récente contemporaine, en tout cas post-Seconde Guerre mondiale.
Là tu parles du monde occidental.
Pas que du monde occidental, bien évidemment en fait, si tu veux, c'est également ce qui est en train de se passer en Orient, ce qui est en train de se passer avec la Chine, avec la Russie, je vais pas me rentrer là-dedans, c'est but du truc, mais si on est, attends Steph, on est en fait dans une situation en fait de tension et de crise absolument monumentale. Or, Catherine Bigelow, depuis en gros K19, c'est un film peut-être un peu entre les deux quoi, mais c'est quelqu'un qui a quitté sciemment le genre pur, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'avant elle s'illustrait dans des thrillers, des films d'action, des films fantastiques, des films d'anticipation, etc., pour faire des films un peu dossiers, on va dire ça comme ça, faute de mieux, qui sont aussi des films expérience, donc dans lesquels elle s'empare en fait de sujets brûlants, archi brûlants même dans le cas de Zero Dark Thirty. Et moi je trouve aussi que même quand elle traite dans Détroit en fait de cette situation-là, enfin de ces soulèvements, etc., là, bon bah évidemment il y a un écho vibrant en fait avec une actualité présente aux États-Unis. Donc forcément, si tu veux, quelqu'un comme elle qui après avec ce passif-là en fait me dit je vais m'emparer en fait de ce sujet-là, de cette tension en fait autour de l'arme nucléaire qui se repose actuellement en fait et qu'on sent en fait de toute façon dans le cinéma. Je pense que Nolan, moi j'aime pas du tout Oppenheimer, mais Nolan, je pense qu'il fait pas Oppenheimer non plus par hasard. Je pense que Cameron en fait il a pas ce projet en fait sur pas Nagasaki mais Hiroshima en fait Hiroshima par hasard et tout, donc il y a à nouveau une tension énorme. Mais moi j'attendais énormément donc Catherine Bigelow là-dessus quoi. Le problème en fait quand on quitte en fait totalement le genre pour aller vers ces films, on va dire un peu plus d'auteur, j'ai toujours détesté cette distinction, mais faute de mieux je l'exploite quoi, c'est que parfois en fait tu peux te laisser piéger par des concepts qui sont très cérébrales et qui détruisent le rapport viscéral en fait que tu peux avoir à l'œuvre. Moi en l'occurrence en fait dans House of Dynamite, c'est le truc flagrant en fait pour moi, c'est-à-dire que elle prend des risques énormes d'un point de vue dramaturgique dans la façon qu'elle a de narrer le film, et c'est là où je vais commencer à spoiler, c'est-à-dire que il y a jamais de payoff en fait dans le film. Ça fait partie en fait du principe et de la chose en fait qu'elle dit, c'est-à-dire que si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu hein, quand vous nous écoutez, mais vous savez que
la pauvre Jeanne, elle l'a pas vu.
Tu l'as pas vu, je suis désolé ouais. Jeanne, mais il y aura pas d'explosion atomique. Il y aura même pas de prise de décision très claire en fait sur le positionnement des États-Unis là-dessus. En gros, on ne sait pas si la guerre commence ou pas. Et non seulement donc il n'y a pas de payoff et de données là-dessus, mais en plus, comme tu as commencé à l'expliquer tout à l'heure, elle te raconte en fait cette même chose de tension qui est avorté, qui est tué dans l'œuf, en fait, à trois reprises. Et en fait, dans la première, moi, je l'attendais, en fait, moi, j'avais pas du tout compris, en fait, que c'était un récit choral qui était raconté à trois reprises, en fait, comme ça. Moi, j'avais cru comprendre, en fait, que c'était plus en temps réel, en fait, sur le truc et tout. C'est là aussi, j'attendais, d'ailleurs, la relation avec Rebecca Ferguson. Et moi, à partir du moment où je l'ai compris, je pense que tu le comprends à peu près au milieu de la deuxième occurrence, moi, tout a baissé. Et quand je suis arrivé en fait avec le personnage du président des États-Unis, qui est aussi un problème à mon sens, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, tout a baissé encore quoi. Donc c'est un film qui est pour moi extrêmement déceptif là-dessus. Je dis pas qu'il est il est pas inintéressant éventuellement sur ce qu'il peut raconter, quoique là aussi malheureusement en fait j'ai des grosses réserves là-dessus. Mais moi en fait c'est un film qui m'a complètement du coup laissé sur le bas-côté. Si je me disais bon bah je vais attendre que ça se déroule, j'ai j'ai eu en plus en prime beaucoup de mal à comprendre ce qu'étaient certains des secteurs en fait qu'elle t'expose. Je pense que là il y a quand même aussi un échec de narration, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnages en fait très secondaires, hein, enfin voire secondaires, voire très secondaires. Je me dis mais quel est leur rôle exactement dans cette chaîne de commandement qui est archi complexe. Évidemment, tu comprends le rôle de Ferguson, tu comprends en fait le rôle du président, tu comprends les militaires, mais il y a autour de ça en fait, il y en a plein. Je me dis mais attends, c'est qui exactement, pourquoi il le conseille comme ça, pourquoi il dit des trucs comme ça. Je comprenais pas du tout ça. Moi, je, et donc j'en viens aux constatations, c'est-à-dire que je comprends complètement d'un point de vue cérébral comment a été conceptualisé le film, c'est-à-dire que en gros, elle fait se communiquer par des biais cinématographiques, des univers qui ont un mal de chiens à communiquer entre eux. Il y a tout un truc où les personnages ils perdent leur réseau, il y a un écran de communication qui tombe en panne avec un mec qui essaye en vain en fait de le réparer. Il y a le président des États-Unis jusqu'à la fin en fait tu vois même pas son image.
Non. Jusqu'au dernier tiers.
Oui, ouais, c'est ouais. Ça, jusqu'à la fin quoi.
C'est le dernier tiers où on dévoile que c'est Idriss Elba.
Voilà, exactement. Bon, tu l'as deviné quand tu connais sa voix, mais peu importe en fait. Mais bon, il y a ce truc là et donc pour au final, les réunir et les faire se communiquer par l'entremise du cinéma. Moi, je veux dire, d'un point de vue cérébral, je comprends complètement, en fait, ce projet-là. Moi, d'un point de vue spectacle et viscéral, moi, c'est comme ça que j'apprends le cinéma. Ça m'intéresse pas, moi, sinon, le cinoche. Je suis complètement resté sur la touche. Je trouve qu'il y a un truc qui est complètement contre-intuitif, en fait, au niveau de sa narration, quoi. Voilà. Et après, moi, j'ai un autre problème. Je sais pas si je continue à dérouler, Steph.
Je t'en prie, parce que moi, je vais te reprendre. Okay, je vais reprendre derrière ce que je pense, moi.
Mais il y a un autre gros problème, moi, je trouve, avec le film. C'est que, donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a tout un truc autour de Gettysburg, qui est de la bataille de Gettysburg, en fait, qui date, donc, le film en 2025.
Parce que, en fait, c'est une reconstitution de la bataille. Un truc, apparemment, qui est un événement annuel, qui a vraiment eu lieu, qu'elle a filmé pour de vrai, en documentaire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, elle a
fait. Mais là, c'est une date anniversaire dans le truc.
Et voilà. C'est une date anniversaire qui date à 2025.
Voilà,
ce
exactement.
Qui fait que, en gros, je vais reprendre un tout petit peu. Je m'avance peut-être parce qu'on en a un petit peu parlé rapidement hier. Le président des États-Unis n'est ni Trump.
Non, bien sûr.
Voilà. Ni Obama, ni personne. Apparemment, elle a vraiment une volonté à sortir le truc, même si bon.
Ni Obama, je suis désolé, mais bon, bref. Peu importe. Ouais. Non, mais je pense que si elle avait pas voulu faire Obama, elle aurait pas du tout traité, en fait, le personnage comme ça. Elle aura pas traité sa femme comme ça.
Je trouve que
par ailleurs, la femme, en fait, du président Black qui se retrouve en Afrique à sauver les éléphants, enfin. Bon bref, mais ça c'est pas très grave en fait. Moi j'ai en plus des problèmes comme ça, mais qui sont plus anecdotiques. Je pourrais aussi en parler tout à l'heure. Mais d'un point de vue plus général en fait, si aujourd'hui on est dans cette situation là, et c'est là en fait où moi le problème en fait que j'ai avec le film, et là où j'attendais pas du tout que Catherine Bigelow se plante à mon sens, à mes yeux en fait, là-dessus, c'est que je trouve que le film est anachronique complètement en fait. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est un refus en fait. De céder à la tendance du moment, mais ça n'a pas de sens parce que je veux dire si on est dans cette crise planétaire, c'est que justement tout ça a évolué. Je sais pas si elle a vieilli, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Elle a un certain âge quand même, Catherine Bigelow aujourd'hui, peut-être aussi qu'elle est plus vraiment en phase avec ce qui se passe. Mais par contre, quand tu te renseignes un peu sur ce qui se passe et pas simplement avec le second mandat Trump, évidemment avec le second mandat Trump, mais pas simplement quoi, avec tout ce qui se passe encore une fois dans l'intérieur du monde. Moi, quand j'ai vu ces personnages là, je n'y ai pas cru un instant. Pour moi, ils n'obéissent plus du tout en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un truc qui est terrible. Alors, c'est un argument qui est un peu malhonnête, mais je vais quand même l'avancer parce qu'il a le mérite, j'espère, d'être clair. Mais parce que je la compare à Kubrick. Alors forcément, quand tu compares un réalisateur à Kubrick, c'est toujours compliqué. Mais il y a un truc qui est terrible quand même dans le film, c'est que j'ai pas. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à complètement décrocher du film, je me suis dit, mais elle est complètement dépassée en fait. En fait, j'ai pu placer les trucs autrement. Docteur Follamour est un film plus contemporain, en fait, que ce film. C'est un truc de dingue, en fait. C'est-à-dire que elle a complètement, en fait, loupé le coche du dévoiement, en fait, des corps décisionnaires. Elle a complètement loupé le coche, en fait, de l'instantanéité, de la brutalité actuelle, en fait, du monde politique. Et encore une fois, je parle d'un point de vue global, quoi. Et ça, elle ne le traite jamais. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, de voir un film qui aurait pu aborder, en fait, cette problématique-là. Je sais pas, moi, si on reste sur un républicain pour éviter les comparaisons avec les démocrates et éviter cette duplicité américaine là et tout, même sous Bush, tu vois, là j'aurais plus compris ça, mais le monde a changé, le monde n'est plus du tout le même, alors que si tu veux qu'elle fasse abstraction absolue en fait de son des réseaux sociaux par exemple dans cette question de communication qui est au cœur il me semble hein, du film moi je comprends ça c'est un choix de réalisateur ça aurait risqué de parasiter
encore une fois le récit sur 20 minutes hein.
oui bien sûr enfin, 25, et ça aurait été un sujet effectivement en soi etc je peux comprendre ça moi je suis aussi très déçu en fait de ce qu'elle fait sur les téléphones portables par exemple, il y a tout un payoff aussi il y a tout une mise en place là-dessus sur les personnages qui laissent leur portable, qui s'en séparent pour finalement aller les chercher, je me suis dit qu'est-ce qu'elle va me raconter en fait là-dessus, qu'est-ce qu'elle va me dire en fait là-dessus.
Alors ça,
et elle envoie juste des textos
ça
quoi.
C'est marrant, je trouve ça c'est hyper marrant, mais...
décevant quoi. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est un film anachronique et
en fait
et
je pense que ce
complètement
que...
Alors, cérébral au détriment du reste.
Je me trompe peut-être Julien et j'ai peut-être essayé de rebondir là-dessus, mais en fait ce qui te semble anachronique, c'est tout simplement que la problématique de Bigelow, c'est en fait de faire un film qui rappelle aux spectateurs donc que en fait le monde entier s'assoit sur combien 50, 60 missiles nucléaires quoi, et qu'en fait en gros il y a pas eu de nucléarisme.
Je trouve qu'elle le rappelle c'est même super, pas en réalité.
Superman,
en fait.
C'est Superman 4 en fait. Tu vois, c'est faut dénucléariser le monde, tu vois.
Je comprends, tu vois, il y a un truc aussi où elle a dit apparemment, moi j'espère que ça va contribuer à faire baisser en fait la tension autour du nucléaire et tout aujourd'hui. Moi, je vois pas du tout comment ça pourrait le faire. Et puis surtout, ouais. Je trouve que c'est même pas vraiment le sujet en fait du film.
En fait,
je trouve qu'elle le loupe complètement.
Moi, je pense que son idée à elle, c'est de dire en fait, on est assis sur une cocotte minute. Ça s'appelle House of Dynamite, tu vois, on a construit
ça, c'est
une
conceptuellement,
maison.
Mais pas dans le résultat.
Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord, mais encore une fois, parce que j'ai vécu le film pour le coup, en fait, si tu veux, d'un point de vue intense, quoi, et pour le coup, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'expérience inverse de toi, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. C'est-à-dire toute la partie avec Rebecca Ferguson, pour le coup, c'est la partie que j'ai intellectualisée. C'est-à-dire en fait, tu vois tous les trucs dont tu parles où ils mettent leur téléphone dans des trucs, etc., etc. Et moi, il se trouve, me demande pas pourquoi, mais il me trouve que je me suis retrouvé il y a une quinzaine d'années, 12-13 ans, à New York, à la FEMA, tu vois, et qu'en fait, tous les protocoles que tu vois dans le film, je les ai vécus. C'est-à-dire, je suis allé interviewer des mecs à la FEMA, etc., etc. Et en gros, et la FEMA, hein, pas le Pentagone, pas les trucs, c'était vraiment dans des petits bureaux, tu vois. Et tous ces protocoles que tu vois, en fait, tu les passes, je les ai tous passés.
Oui,
tous
évidemment.
Les trucs ouais. De merde et tout ça comme ça relou, là. Et en fait, le truc avec ton, t'avais déjà des iPhones à l'époque et tout. Et en fait, en gros, tout ça, je m'y suis complètement retrouvé, là-dedans. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment le système, enfin, c'est le système en fait de sécurité à l'américaine, tu vois. Et c'est justement, je trouve qu'en fait, là où elle en fait quelque chose, à mon sens, c'est que ça commence doucement dans la deuxième partie à arriver. C'est-à-dire que en gros, t'as la machine, c'est ce qu'on te met en place, tu vois. Par exemple, le personnage qui est interprété par Jason Clarke, qui est un général, je crois, si je dis pas de bêtises,
j'ai pas compris en fait qui il était. C'est pour moi un autre problème.
Je crois, il le cite. Hein, ils disent que c'est un général. Et en gros, le truc, si tu veux, c'est que je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
Tu vois, c'est un problème.
Non, mais là, parce qu'en fait, à un moment donné, tu te prends le film aussi en pleine gueule. On l'a vu qu'une fois. Tu vois, par exemple, il y a un autre exemple où je vous ai sorti ça à toi et on l'a vu avec Julien Charpentier qui était avec nous dans la salle hier. Je vous ai dit, vous êtes d'accord, vous avez vu Obama. Il y a Obama, en fait, il y a une image d'archive d'Obama, tu vois. Et en fait, parce que moi, dès que je l'ai vu, dans la première partie, justement, du film, il y a un moment donné où, parce que la cellule de crise est en train de se mettre en place, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas, mais c'est un plan très furtif, il y a rien qui est signalé, tu vois, qui est surligné. Mais t'as un plan, en fait, d'Obama en train d'écouter, le truc. Et moi, j'ai pris ça comme les anciens présidents, si tu veux, dont qu'on prévient, en fait, si tu veux, et qu'on met dans des trucs pour qu'ils aient éventuellement un rapport de, comment t'appelles ça, de conseil, ou j'en sais rien. Enfin, bref, c'est un truc qui apparemment se fait aux États-Unis, quoi. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que j'ai compris ça comme ça en me disant, OK, donc c'est pas, enfin, donc, en fait, ce n'est pas un film qui se passe en 2012 quand c'était Obama, enfin, etc., etc. Maintenant, vous m'avez mis le doute parce que du coup j'ai l'impression d'avoir fantasmé cette image très rapide, très furtive. Les gens qui vont nous écouter nous le confirmeront. J'ai à retourner voir le film sur Netflix pour voir si c'est le cas, quoi. Mais voilà.
Je verrais pas l'intérêt en fait de mettre cette image là. Bah... D'autant plus qu'elle est aussi furtive et que sur trois on est un seul à penser l'avoir vue, puisque t'en es pas non plus complètement certain.
J'en suis plus sûr à cause de vous.
Je vois pas pourquoi elle aurait fait ça, mais peu importe.
Bah pour moi elle l'aurait fait parce que justement en fait pour désamorcer la notion que Idriss Elba n'est pas un pseudo Obama.
Mais elle aurait, enfin, je veux dire, si on doit s'attarder sur cette question-là, qui me semble pas être si intéressante que ça par ailleurs, mais si on doit s'attarder en fait sur cette question-là, je veux dire, il y a 10 000 façons en fait de faire en sorte que le président des États-Unis ne rappelle pas Obama, alors que là, il y a tout qui rappelle Obama quand même, quoi.
En fait,
je veux dire, tu fais en sorte qu'il soit énorme, tu fais en sorte qu'il ait les cheveux complètement blancs, tu fais, enfin, je veux dire, il a une barbe, je sais pas, il y a plein de, tu prends un Asiat, il y a 10 000 façons en fait de faire en
Morgan
sorte que
Freeman.
C'est pas
dans Deep Impact.
N'importe quoi, je veux dire. Mais or là, en fait, elle fait rien de tout ça. Enfin, au contraire, si tu veux, t'as l'impression qu'elle donne plein de billes en fait. Et c'est pas une pauvre image furtive en fait qui dédouane le film d'avoir une parenté sur Obama. Moi, je m'en fous en fait de ce débat-là. Je le trouve pas très intéressant.
Oui, d'accord. Si tu veux, en fait, pourquoi ce débat m'intéresse moi pas pour une raison très simple en fait, c'est que en gros. Il y a moi ce que je reprocherais potentiellement au film, mais je vais pas commencer à reprocher des trucs alors que j'ai quand même des choses à défendre, beaucoup de choses à défendre dans le film, quoi. C'est que en fait j'aurais préféré qu'on garde ce concept en fait qu'elle a mis en place, qui est un concept intellectuel certes, mais qui aurait fonctionné à mon avis, tu vois. Je veux dire surtout vu la fin qu'elle prône, tu vois, en fait de ne pas montrer le président. C'est-à-dire t'as toute une partie où le président en fait est dans les conversations. Dans la première partie, dans le premier point de vue, le deuxième point de vue, il est dans les conversations. C'est la même séquence, c'est le même moment, c'est les mêmes événements, mais en réalité, on ne le voit pas parce que c'est un zoom en fait. C'est une conversation, c'est un call quoi. Et en gros, si tu veux, moi je me suis dit bah en fait on aurait dû en rester là. Et même j'ai envie de te dire, vu que de toute façon elle ne donne pas.
T'as eu du mal à y rentrer et tu regrettes qu'il y ait le président à la fin. En fait, t'as aimé la deuxième section.
Mais parce qu'en fait, la tension, elle était quand même là. En fait, si tu veux, même sur la séquence avec le président. En fait, si tu veux, le truc.
Je pense que ça aurait été un gros faux fuyant, en fait, si elle l'avait pas fait.
Moi, je sais pas. En tout cas, il y a un truc, c'est que. Faut voir comment.
Qui est
faut
déjà
voir,
là, vu comment
faut,
elle le traite.
Faut voir comment. Moi, je vais revenir encore une fois sur mon expérience personnelle et en fait, au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que quand je parlais de ce personnage qui est interprété par Jason Clarke, il y a une espèce de fausse sérénité. En fait, fausse de. On sait ce qu'on fait. On a confiance dans le système, on a confiance dans la machinerie, on a confiance dans les piliers de la société qu'on a mis en place en fait pour ce genre de problématique. Et ces personnages-là, c'est exactement ce qu'ils font en fait dans la première partie, jusqu'au moment où ça commence à se déliter, si tu veux, et que eux-mêmes qui savent en fait quels sont les protocoles en fait, si tu veux, avec les téléphones et les trucs comme ça, etc., etc., finissent par briser ces protocoles eux-mêmes pour en fait devenir des êtres humains et en gros commencer à appeler leur famille pour leur dire voilà fuyez quoi en gros, tu vois.
C'est le principe de base de ce genre de film. Ouais.
Pas de problème. Non bien sûr. Bah après voilà, tu vois. Donc moi j'avais du mal à rentrer dedans parce que la mise en scène alors que moi j'adore par exemple, je trouve que c'est moi j'aime pas la mise en scène comme toi hein, je pense hein, Julien, à la base généralement caméra à l'épaule à la Paul Greengrass tout ça etc. Je trouve qu'en fait, ce qu'elle fait dans Des Mineurs, je crois que toi, on avait vu ensemble à l'époque. T'avais
moi,
pas
je préfère
trop
dans Zero Dark Thirty, je trouve ça mais incroyable alors, ce qu'elle fait dans Zero Dark Thirty.
J'ai toujours pas vu Zero Dark Thirty.
Ouais, mais je trouve ça hallucinant. Et là, je trouve que c'est un peu. Mais bon, à partir du moment où tu rentres pas dans le film, c'est compliqué.
Voilà,
parce que tous les défauts sont grossis et je trouve que c'est beaucoup moins inventif. C'est beaucoup moins percutant, en fait.
Tu parles de
la mise en scène.
House of Dynamite.
Ouais.
Moi, je suis d'accord avec toi sur la première partie. Parce qu'en fait, par contre, c'est un film qui devient progressivement. C'est marrant, c'est qu'au fur et à mesure où. La notion même, en gros, d'inéluctabilité de ce qui est en train de se passer, parce qu'on te le répète 3 fois, si tu veux, il n'y a pas de... honnêtement...
De se passer rien.
Alors, honnêtement, très sincèrement, si tu fais un film pour dire l'échec du système, si tu veux, en place, en fait, américain, de défense, si tu veux, de ce genre de scénario catastrophe absolument, ne fonctionne pas si c'était pas pour que ça arrive, même si elle ne le montre pas, ça n'a aucun sens de raconter ce film. Donc, à mon sens, en fait.
Sauf que ça n'arrive pas, en fait, Stéphane. C'est que aussi, on n'arrête pas de te dire. En fait, on sait
non,
même
elle
pas.
Elle te montre pas.
Elle te montre
pas.
Et on n'arrête pas de te dire. Il y a plein de personnages. Et dans les 3 fois, en fait, on te le dit. Et on te le dit plusieurs fois. Il y a des chances que l'ogive, et ça arrivait plein de fois, que l'ogive, en fait, elle chute.
Mais Julien.
Et que ça ne brûle pas.
Bien
et
sûr,
on n'en sait rien. Et c'est
bien sûr,
tout
Julien,
le dilemme des personnages.
Mais en toute honnêteté, ça, je pense que c'est la Catherine Bigelow. Documentariste qui allait chercher toutes les informations, qui donne toutes les informations, qui a cette espèce de velléité, si tu veux, générale, de dire en gros, oui, dans la vraie vie, pas dans mon film, mais dans la vraie vie, en fait, ça pourrait effectivement arriver. Donc je vous donne toutes ces informations-là, vous en faites ce que vous voulez, puisque de toute façon, mon choix, c'est de pas vous le montrer. C'est à vous de vous laisser la porte de sortie, tu vois. Maintenant, t'as Catherine Bigelow, réalisatrice de cinéma, et je suis désolé, c'est un film de cinéma, tu vois. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que elle fait tout pour que tu crois que ça va arriver et que t'es en fait avec les spectateurs.
Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, je l'ai vraiment pris en fait, et en particulier avec la section du président, comme le dilemme en fait de ce personnage qui ne sait justement pas si ça va arriver, parce que si ça arrive. Évidemment, faire une contre-attaque semble la seule solution, la seule issue au vu de tout ce que lui disent ses conseillers, etc. Mais par contre, pardon, si ça n'arrive pas, c'est une déclaration de guerre inoffensive en fait qui va mener à la destruction. Et le DM du personnage, c'est de se dire est-ce que je donne en fait à l'humanité une dernière chance et est-ce que je crois en fait à la chance? C'est-à-dire, il a chance que ça n'explose pas, ou machin. Donc,
mais moi,
encore une fois, il n'y a rien d'inévitable dans cette récit. En tout cas, je pense qu'elle aurait pu le montrer différemment.
En fait, le truc, c'est que l'aspect inéluctable, justement, du récit, c'est dans la mise en scène, à mon sens. C'est-à-dire qu'en fait, justement, cette espèce de brouhaha au début général, alors qu'en fait, les personnages sont en contrôle, si tu veux, et que la mise en scène se contrôle de plus en plus au fur et à mesure à l'avant jusqu'à ce plan final en fait, si tu veux, t'as quand même ce plan en fait qui monte en fait, etc., qui te révèle la base, tu vois, et qu'il y a quand même un plan hyper léché, hyper travaillé, tout ça, etc., tu vois, qui a rien à voir avec ce que tu vois au début du film. Je pense en fait que tout ce truc là en fait, il y a une espèce de, alors à défaut de meilleur terme, une espèce de sérénité de mise en scène, on va dire, si tu veux, par rapport au début, par rapport à l'aspect chaotique de la caméra et tout ça, etc.
qui a une évolution là-dedans,
toi. Ah, complètement.
Moi, la scène,
mais
par exemple,
moi, en fait, justement, c'est vrai que je suis rentré dans le film,
je l'ai vu qu'une fois aussi, le film, donc il faudrait que je le revoie et tout, mais par exemple, la scène dans la voiture, en fait, du président, une fois qu'il repart du cours de basket, c'est une des scènes ou des moments, en fait, où la caméra est la plus frénétique.
Alors moi j'ai pas le souvenir de ça en tout cas, mais le truc, si tu veux, c'est que en réalité à part, oui, bon, il y a le truc où il l'exfiltre en fait, voilà, mais en fait le truc,
il y a ça, puis ce qui suit,
oui, mais après moi je pense qu'en fait le film prend en fait une espèce de d'ampleur là-dessus, si tu veux, à mon sens, qui sort du truc. Et encore une fois, je pense que alors toi tu l'as pas ressenti, donc en fait, encore une fois, là on parle effectivement de subjectivité potentielle. C'est, pour moi, c'est pas tant ce que j'appelle de la subjectivité, forcément, que la question de où est-ce que tu te concentres, ta vision sur le film, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc, c'est que moi, je me suis laissé en tout cas totalement emporter par sensitivement, parce que très rapidement, en fait, le truc, c'est qu'on te bombarde de d'informations, d'enjeux, de bidules, etc. Moi, dans la première partie, j'étais un peu largué, tu vois. Dans la deuxième partie, en fait, si tu veux, j'étais complètement, c'est bon. En fait, je comprenais exactement tout ce qui se passait. Et par exemple,
t'as compris, c'est le vice-président, du coup, celui qui se suicide, non, c'est ça?
C'est le chef du Pentagone. Mais et en fait,
ça, ils le disent.
Ouais. Non, mais ils disent tout. Hein. En fait, le truc,
non,
c'est pas.
Ils disent tout, mais
ils disent tout très vite. Mais ils le disent. Mais le truc, en fait,
il y a la blague, par exemple, qui est exfiltrée pour aller dans le truc.
Bah, c'est une. En fait, c'est une nana qui travaille à la FEMA. La FEMA, en fait, c'est le comment dire. Alors, FEMA, c'est l'organisme, en fait, si tu veux, qui est censé gérer les crises sur le terrain. En fait, c'est-à-dire, en gros, mais bon, je le sais parce que je suis allé à FEMA, je les ai interviewés.
Bah, c'est-à-dire, moi, j'ai rien compris là-dessus.
Si t'as un scénario de crise, en fait, si t'as un scénario de crise, et d'ailleurs, je vais raconter pourquoi j'étais à FEMA.
J'ai même pas compris l'enjeu, en fait, autour de cette.
Je vais raconter pourquoi, pour le coup, j'avais une information supplémentaire à toi qui est pas forcément effectivement dans le film, mais moi j'étais à l'aise là-dessus, tu vois. C'est que, en fait, je suis allé, en fait, interviewer la FEMA parce qu'à une époque lointaine, j'ai bossé dans le jeu vidéo. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, j'avais l'occasion d'aller leur parler d'une situation de crise pour un jeu qui existe, hein, qui est sorti, qui a fait des millions d'exemplaires. Et en gros, c'est une situation de crise très spécifique. On avait besoin d'avoir des informations. Pour eux, c'est des scénarios, ça les fait rigoler parce que c'est des scénarios catastrophes où c'est des scénaristes qui partent en cacahuète et puis qui imaginent les pires trucs qui peuvent arriver. Et en fait, eux, ça les amuse de se demander ce qui se passe. Si ça se passait vraiment dans la ville, quoi. C'était une époque pré-Covid, c'était tout ça, comme je disais, quoi. Le truc, en fait, c'est que, comme je te le disais, voilà, enfin, à mon avis, Catherine Bigelow, je pense que, elle s'est pointée aussi avec les mêmes questionnements, avec les mêmes trucs. Ils la prennent un peu plus au sérieux que moi, certainement, tu vois. Mais voilà, quoi. Donc oui, là, j'avais une petite longueur d'avance sur toi, peut-être, parce qu'effectivement, j'avais cette info particulière. Je pense après que, pour autant, il y a... moi, en tout cas, je sais que ma porte d'entrée, elle a été plus compliquée, parce que je trouve que, en fait, la façon dont elle ramène l'humanisation dans le récit, Tu vois la façon dont elle présente les personnages, je trouve que c'est un peu taillé à la serpe au début, tu vois. Alors elle a son enfant qui est malade, à elle, tu vois.
Tant que c'est taillé à la serpe, c'est que c'est ça fait partie, c'est un truc qui m'a vachement aussi déçu dans le film, mais bon, encore une fois, quand t'aimes pas, quand tu sors en fait d'une expérience comme ça, c'est tout est exacerbé, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très grossières dans le film et elle m'a pas habitué à ça. C'est-à-dire que le gamin en fait du personnage de Rebecca Ferguson qui lui donne un petit dinosaure et elle te fait des gros plans sur le dino et tout. Franchement, non,
mais même
ça,
moi qui étais à fond dans le film, je t'avoue
ça un peu grotesque. Ouais. Je trouve de la même façon, si tu veux, t'as tout ce discours en fait sur la reconstitution de la bataille de Gettysburg et avec l'autre qui dit attention, hein, la guerre c'est pas un spectacle et tout. Tu te dis mais putain, ouais, d'accord, j'ai compris pourquoi tu voulais pas montrer les trucs et tout. Il y a un côté un peu. En plus, je trouve que là-dedans, du coup, il y a un côté un peu donneur de leçons, je suis au-dessus de tout ça.
Mais non, je sais pas. En fait, je sais pas.
Tu surlignes les trucs. Enfin, c'est.
En fait, il faut quand même. Catherine Bigelow, c'est quelqu'un à qui on a reproché chacun de ses films. En réalité, hein, quand ils sont sortis, tu vois. Et notamment, par exemple.
Des mineurs.
Non, mais notamment par exemple la scène de viol par exemple dans Strange Days, c'est quelque chose qui lui a été énormément reproché à la sortie du film, alors que pour moi c'est littéralement la scène la plus, enfin c'est la scène clé du film en fait, c'est la scène la plus intéressante d'un point de vue de mise en scène.
Une des scènes clés en tout cas.
Non mais c'est surtout d'un point de vue de mise en scène et d'un point de vue de rapport au spectateur et de le mettre dans un système de voyeur, ce que tout le film raconte en fait, le film dénonce tous ces trucs là. Donc et pour moi, quand tu veux dénoncer quelque chose, tu le montres en fait. Donc le truc c'est que là où je te rejoins sur la Catherine Bigelow qui faisait des films de genre à proprement parler, si tu veux des thrillers, des films d'action, des choses comme ça, et qui d'un seul coup en fait se dépouille de, on va dire entre guillemets, de la fiction, même si ça reste une fiction hein, évidemment, House of Dynamite, tu vois. Je pense, si tu veux, que effectivement il y a cette espèce d'aspect. Moi maintenant, après, pas pour forcément la comparer. Tu as très rapidement évoqué James Cameron tout à l'heure, pas forcément pour la comparer à James Cameron, hein, mais en fait, ces deux cinéastes qu'on a comparés parce que, comment dire, il y a des traits similaires. Évidemment, ils ont été mariés. Évidemment,
ils ont été ensemble.
Ils ont été mariés. Et oui, ils ont bossé ensemble, etc., etc. Et puis il y a des thématiques communes, hein, c'est-à-dire que elle. Comme Cameron, elle a grandi en fait dans la peur du nucléaire, quoi, dans le fait de quand elle était gamine d'avoir des cours sur la bombe et sur les abris antiatomiques et ce genre de choses, etc., etc. Et des PSA, tu vois, des public service announcements, tu vois, pour expliquer comment faire si jamais ça arrive, tu vois. Et elle fait l'anti-Cameron en fait, c'est-à-dire elle fait l'anti-Terminator 2, ce que tu veux. Alors pour autant, je trouve qu'elle rejoint pas justement Oppenheimer. T'as pointé du doigt Oppenheimer tout à l'heure en disant voilà le truc avec Oppenheimer. Mais parce que en fait, justement, elle prend le risque de faire un film entre guillemets contemporain. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la notion.
Là-dessus, je suis d'accord. Après, le truc aussi, c'est que c'est sur la notion d'alerte en fait, tu vois, et la notion de comment t'apprendre en fait ces trucs-là aujourd'hui. Et à quel point, encore une autre expérience que je déteste, c'est film nécessaire, quoi. Mais elle se positionne d'office comme ça. Quand elle dit, moi, j'espère qu'après avoir vu mon film, ça va contribuer à faire une prise de conscience autour de la présence des armes nucléaires et tout. Et moi, je pense aussi qu'il y a un truc comme dans Oppenheimer, hein, une volonté. Je sais pas comment qualifier ça, ou alors de pudeur, ou alors comme elle le dit avec à travers ses personnages dans cette bataille de Gettysburg, de pas céder en fait au spectacle pour ne pas avoir le cynisme qu'on pourrait avoir dans ce genre de truc en disant bah c'est beau une bombe une explosion atomique etc et tout, mais qui est moi complètement contre-productif comme tu l'as dit, et quand tu citais Strange Days tu montres en fait les choses que tu dénonces aux gens.
Alors,
mais là je pense qu'en fait c'est même pas vraiment le sujet en fait, enfin
oui,
je pense
non,
que
mais...
c'est dommage que ce soit pas le sujet. Je pense qu'elle aurait gagné à ce que ce soit le sujet à mon sens et dans mes yeux, mais je peux pas lui reprocher de ne pas faire le film que moi j'aurais aimé voir. C'est autre chose. Moi je peux lui reprocher de pas avoir réussi le film qu'elle voulait faire, mais je trouve que du coup elle s'est concentrée sur quelque chose qui à mes yeux est beaucoup moins intéressant et comme je le disais tout à l'heure qui est traité de façon complètement anachronique.
Alors voilà, moi je veux dire là en fait, parce qu'il faut en fait on essaye d'avancer un tout petit peu dans nos confrontant nos points de vue là-dessus, tu vois. Moi le truc là où je le trouve le film passionnant, déjà au-delà même de la tension générale, c'est-à-dire qu'en fait certes elle ne montre pas mais elle fait ressentir. Tu vois, et même plus, j'ai envie de te dire la notion. Moi, ce que je trouve raté, par exemple, dans le film, c'est le chef du Pentagone qui se suicide. Si tu veux, il y a une espèce de notion où je pense que quand si tu opposes en fait ce genre de notion de dire ah oui, mais il y a quand même une probabilité pour que si tu veux, la bombe n'est pas explosée, tu vois, que le mec n'attende pas, si tu veux, de savoir ça, et qu'en fait on lui construit un espèce d'arc où il a perdu sa femme, et puis en fait il parle avec sa fille, et puis en fait il se rend compte que sa fille veut pas lui parler parce qu'ils sont tous les deux en deuil, et que patati et patata, et que le mec d'un seul coup en fait il va se foutre en l'air à cause de tout ça parce qu'il y a la situation actuelle.
J'ai juste pas compris,
c'est,
en fait.
Bah moi je c'est surtout, je trouve ça grossier aussi.
Mais c'est un effet choc que moi j'ai trouvé grotesque parce que je l'ai pas compris. Je me suis dit, c'est pas logique avec le perso. C'est pas du tout logique, je trouve, avec le perso. Et puis je trouve que il y a rien qui est vraiment annonciateur de ça. C'est je trouve que c'est vachement mal bricolé, ce truc là.
J'ai l'impression que c'est des trucs qu'elle a plus ou moins dressés. Faut savoir, alors il faut peut-être préciser aussi un truc, c'est que ça n'excuse rien, hein, tu vois. Mais elle avait un autre projet avec Netflix, hein, l'an dernier. Ils étaient en train de partir sur un gros film catastrophe, apparemment, hein. C'était vraiment un truc assez énorme, un très gros budget pour Netflix, qui s'est pas fait. Et en fait, elle s'est rabattue sur House of Dynamite, tu vois, qui, donc du coup, je pense, a été fait très très vite aussi, si tu veux, et sort finalement, à mon avis, dans l'urgence du moment. C'est-à-dire que là où elle a pu être rattrapée par, entre guillemets, l'actualité, et encore, enfin, ça reste, assez large aussi dans le truc, c'est que, enfin, moi je suis désolé, hein, géopolitiquement parlant, bien malin sera celui qui sait ce qui se passe en ce moment, parce que moi je ne comprends plus rien. Vraiment, là, le monde dans lequel on vit, je ne le comprends plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même plus.
D'accord,
de...
tu peux ne pas le comprendre. Tu peux aussi avoir conscience totalement que les tensions qui sont en jeu aujourd'hui et la façon surtout des grands dirigeants de les traiter nous mettent en fait encore une fois. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui en parle, hein. Parce que moi, je serais bien en peine. C'est pas mon métier. Et je serais bien en peine d'en parler. Mais il y a,
non, mais tu
y
le
a
ressens.
Énormément d'observateurs. Bien sûr, je le ressens.
Voilà.
Et il y a énormément en fait d'observateurs qui évoquent le côté hyper risqué, du coup, par conséquent, extrêmement anxiogène en fait de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il y avait tout ce truc après Hiroshima et Nagasaki et la fin des guerres mondiales, on disait c'est la fin de l'histoire, il y aura plus de guerre mondiale et tout. Et là en fait tu vois en fait un terreau qui est en train de se construire un peu de pourrir là dans tous les coins, etc., pour nourrir justement un nouveau conflit nucléaire, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que ce film là et je pense que sa crainte à elle et sa peur à elle, comme la peur de Cameron, comme la peur de Nolan et comme la peur de milliers de millions de gens probablement actuellement, elle tombe pas en fait du ciel quoi aujourd'hui. Après je pense en fait que la façon dont on nous dirige aujourd'hui et les dirigeants ont énormément changé par rapport à ce qui se passait à la Seconde Guerre mondiale quoi.
Et ça c'est ton problème avec la façon dont elle traite le président à la fin.
Ah moi je n'y crois, mais pas que le président si tu veux, moi je n'y crois pas en fait. Si je crois en fait, je crois à Rebecca Ferguson, je crois en fait à cette première partie parce que ce sont des gens que moi je ne connais pas pour le coup. Je vois pas, je connais pas ces personnages, je connais pas machin et tout. Et dès qu'en fait tu commences à monter, tu vois, moi j'ai eu ce double effet déceptif, c'est que dès qu'on commence à monter, moi je me suis dit, attends, aujourd'hui c'est pas comme ça. On est d'accord qu'aujourd'hui c'est pas comme ça, quoi. Et donc j'ai déjà eu ça qui m'a complètement cassé les pattes. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, ce côté de répétition, tout en sachant qu'il y aurait pas de payoff, qui m'a aussi complètement pété les pattes, quoi.
Bah en fait, moi je savais pas qu'il y avait pas de payoff déjà. Ça c'est le premier truc. C'est-à-dire, je me suis douté.
Doute, hein.
Bah en fait, je me suis douté éventuellement du truc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment. Elle, parce qu'il faut quand même c'est structuré, hein, mine de rien. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien préciser que elle arrête le premier point de vue. À 10 secondes de l'impact. Elle arrête le deuxième point de vue, pareil, à 10 secondes de l'impact. Et en fait, moi, je sais que, par exemple, j'en parlais avec Charpentier hier, il me disait, moi, ça m'a fait descendre et tout. Moi, ça m'a pas fait descendre, au contraire, ça a été une montée. Le truc éventuellement potentiel, ce que je veux dire, c'est que, et c'est peut-être, on va dire, considérer ça comme une thématique intellectuelle, en fait, si tu veux, mais qui, moi, je trouve mine de rien intéressante, c'est que pointer du doigt, que au-delà de l'aspect c'est Idriss Elba qui joue le président et que en fait si tu veux le mec est fatigué d'entrée de jeu, il te le montre comme ça, etc. et tout. En fait, et l'espèce de cercle vertueux qu'on essaye de lui donner à la fin, tu vois. Moi au-delà de ça, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans et je pense que c'est ce qui l'intéresse elle aussi, c'est de dire en fait le mec qui en gros a le pouvoir entre les mains de répliquer, si tu veux, et c'est quasiment le seul. En gros, même s'il est conseillé tout ça, etc. En fait, il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, et pas préparé, pas parce qu'en fait, le truc est tellement énorme qu'on peut même pas y croire. C'est il est pas préparé en termes de protocole, en fait, si tu veux. Il explique même lui-même, il y a une phrase, en fait, où il le dit ouvertement. Il dit, par rapport au Congrès, on sait absolument tout ce qui peut se passer. Par rapport au protocole nucléaire, on m'a fait un briefing, quoi. Tu vois. Et en gros, c'est là où, en fait, je pense que le cœur de ce qu'elle veut raconter, d'un point de vue en tout cas géopolitique, se situe, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, en fait, tout ça repose entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas prêt, qui ne sait pas quoi faire avec ça de toute façon, quoi, tu vois. Et je pense que c'est
pas,
la raison.
Je pense pas que ce soit le sujet, mais ben, je pense que c'est un des sous-textes.
Moi, je pense
potentiels.
Que c'est une des raisons pour lesquelles elle ne montre pas la fin, justement, tu vois.
Mais je pense que c'est une des raisons potentielles. Je pense que le vrai truc central, à mon avis, c'est sur l'impossibilité de communiquer, mais pas simplement à l'intérieur de cette structure américaine. C'est ce manque de communication générale, c'est ça court sur la totalité du film.
Moi, il y a ça, bien sûr. Alors le truc, c'est que par exemple, un des éléments que moi j'aime beaucoup dans le film, pour le coup, qui est ce moment justement où t'as on l'appelle le diplomate, tu vois, c'est-à-dire ce personnage qui avec son téléphone, sa femme enceinte, sort de la bagnole, essaye de discuter avec tout le monde, etc., etc. Et en fait, il assiste à la conférence sur son téléphone.
C'est
comme
pas
ça.
Un diplomate, mais j'ai pas compris son rôle non plus.
Bah en tout cas, il agit en tant que diplomate en fait avec conseiller diplomatique avec la Russie par exemple, si tu veux, quand il discute avec les dirigeants russes. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand le mec se retrouve, même dans une situation de crise dans laquelle il peut pas vraiment dévoiler ce qui se passe, tu vois, il est quand même obligé de suivre tous les protocoles. Et le protocole le plus évident, c'est passer, en fait, se retrouver à devoir continuer la conversation, alors qu'en fait, il est censé passer le truc de sécurité, tu vois. Et tout ce truc, en fait, si tu veux, c'est tous ces éléments qui existent au quotidien. En fait, c'est une manière de te dire, mais en fait, tout ça, en fait, c'est une machine qui alourdit aussi la situation. Tu vois, et que en gros le système, est obsolète. Et c'est là au moins, je pense qu'en fait, si tu veux, c'est-à-dire, c'est le même questionnement avec le, donc le missile qu'on envoie pour contrecarrer le missile nucléaire, l'attaque nucléaire, c'est pile ou face, c'est 61% de voilà. Et apparemment le chiffre est précis, quoi. Tu vois, et c'est le vrai chiffre. Tu vois, et mine de rien, c'est une information intéressante à avoir, tu vois, malgré tout. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est tout simplement de dire, on paye 50 milliards de dollars de défense, en fait, si tu veux, pour avoir un système comme ça, et ça ne marche pas, en fait, parce qu'il y a 60, c'est pile ou face, quoi. C'est ce que dit le chef du Pentagone. Donc, du coup, t'as tout un aspect.
Belette ou febelette.
Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est toutes ces thématiques-là. Après, je pourrais te concéder, mais c'est pas que je te le concède ou je te concède pas, mais que tu n'es pas rentré dedans et que du coup, tu n'as pas été pris par la tension de la situation, mais moi, je t'avoue que, en fait, ça a été un vrai crescendo. Le truc avec le président, pour moi, la problématique avec le président, c'est que justement, à partir du moment où elle ne montre pas l'issue de son choix, si tu veux, qui, moi-même, je pense que c'est une concession dramatique à ce moment-là, parce qu'en fait, le type est censé répliquer, alors qu'en fait, il sait même pas encore si le missile va arriver. Tu vois ce que je veux dire? On sait même pas encore si le missile est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on lui demande de répliquer.
Il sait qu'il est vrai, mais il sait pas s'il va exploser.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'on lui demande déjà de prendre une décision instantanée. Tu vois? Et je pense que ça, c'est une concession à la dramaturgie. Je pense que c'est une concession à la dramaturgie parce qu'en réalité, si tu veux, elle s'est mise dans une espèce d'étau où elle s'est dit, on va raconter trois fois le même truc. Et en fait, plus j'avance dans mon récit, enfin, le mec, il peut avoir 10 minutes pour répondre, hein. 15 minutes, 20 minutes, une heure même, tu vois, c'est pas la question, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à un moment donné.
Je suis pas sûr du tout de ça, en fait.
Ah ouais? Là, il est pointé du doigt que c'est pas les Russes, que c'est peut-être les Nord-Coréens, que patati patata, enfin, tu vois. Il y a tout un espèce d'enjeu pour rendre ça un peu crédible, tu vois, pour pas dire qu'il y a une menace physique extérieure, tu vois, et ne pas la nommer, quoi. Mais disons que, voilà, enfin, pour moi, en tout cas, la problématique, en fait, de la tension, elle est. Enfin, pour moi, elle est réglée. C'est-à-dire, moi, le film, il m'a pris, et il m'a pris par la main, et il m'a emporté. Ça a pris un petit peu de temps à démarrer, mais il m'a pris, il m'a emporté, j'étais à fond dans le truc. Et ce qui fait que je pense que, oui, enfin, ça serait intéressant de savoir, en fait, les gens qui vont le regarder sur Netflix, justement, et qui ont toutes les tentations de lâcher l'affaire, si tu veux, en fait, parce que c'est quand même un peu ça, Netflix, tu vois. Pour moi, c'est pas un film second screen, quoi, comme on dit, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ces films, en fait, qui sont pensés comme tels, hein, si tu veux, pour que tu puisses regarder ton téléphone et
j'ai jamais
suivre.
Dit ça. Hein.
Non, je sais que t'as pas dit ça, mais c'est pour dire qu'en fait, si tu veux, c'est aussi
comme
là où c'est un
film. Le film n'était pas intéressant ou quoi que ce soit.
Mais ce n'est pas toi
mais
que
je trouve qu'il est, non, parce que tu disais sur les trucs, mais je trouve que, voilà, il est anachronique et
toi aussi, t'as un autre problème aussi sur la représentation des États-Unis. C'est ce que tu me disais hier en sortant.
Oui, mais en général, si tu veux, je pense que ça se passe plus comme ça, en fait, d'un point de vue géopolitique aujourd'hui. Enfin, si, sur certains points, encore une fois, mais à mon avis, ça se passe pas comme ça, en fait.
Mais moi, je pense que le film, il parle de l'obsolescence de ce système, hein.
Oui, mais il y a le système. Alors après, tu peux me dire aussi, on pourrait me contrarier en me disant, c'est pas la question du système, enfin c'est pas la question de l'humain, c'est juste la question du système. Mais je pense que le point d'accroche émotionnel, c'est sur l'humain, c'est pas sur le système que tu vas l'avoir.
Ouais, mais moi je pense, alors je sais pas comment toi tu le prends le truc, mais moi j'ai l'impression que le film, et c'est peut-être aussi une erreur hein, à mon sens hein, dans le film, même si moi d'un point de vue humain et d'un point de vue tension je l'ai là, en fait le truc c'est de dire le système, c'est le système qui est faillible, c'est pas forcément l'humain. Je sais pas si c'est si c'est comme ça que tu l'as ressenti.
Non, parce que
en fait.
Je pense qu'il y a plein de moments en fait, elle te montre la faillite de l'humain. Après oui, je veux dire s'il y a une faillite humaine, elle est encore une fois à travers ce manque de communication qui est à l'origine en fait de cette bombe, puisqu'on sait pas qui l'a lancée, qui court sur la totalité du film jusqu'au suicide, jusqu'au président à la fin qui appelle sa femme et il peut plus la voir au bout d'un moment et puis ça coupe tout le temps et tu parlais tout à l'heure de celui qui fait un peu office d'ambassadeur à un moment avec la Russie, c'est pareil, il y a plein de trucs, il y a des calls, on doit rejoindre les gens, mais on n'arrive pas à les mettre ensemble, etc. Et là-dessus, après, ce que je te disais hier en sortant de la salle les États-Unis, mais moi, ça, en fait, c'est plus d'ensemble, c'est pour ça que je suis parvenu dessus, mais c'est vrai que ça fait aussi partie d'un film où j'ai l'impression qu'il est complètement en retard sur ce qui est devenu, ou plutôt comment être dépéri, dans quel état est aujourd'hui le soft power américain. Je pense qu'il en a pris un coup monumental, en fait, ces dernières années.
C'est une évidence.
Et je pense que c'est très, très, très compliqué, en fait, de faire un film comme ça et qu'il soit reçu par les gens. Après, peut-être que ça a marché. J'en sais rien. Peut-être que les gens vont être contrairement à moi. C'est vrai que c'est dur, en fait, aujourd'hui, de voir un président des États-Unis, qui regarde, en fait, le truc et qui est écœuré parce que potentiellement, sa riposte, armée, risque d'être un carnage. Et moi, j'ai du mal en fait à croire à ça. J'ai énormément de mal à croire à ça aujourd'hui. J'ai énormément de mal en fait à croire à la bienveillance de cet homme quand le rare moment où tu le vois en fait au travail avec ses collaborateurs, qui est une crème, mais juste avec tout le monde quoi. Il est présenté clairement comme ça au début. C'est une crème. Le mec, il est trop cool quoi. C'est le président des États-Unis probablement le plus cool depuis celui de Independence Day quoi. Et il est hyper gentil. Il est hyper
Morgan
bienveillant.
Morgan Freeman
dans
le début. Impact.
Ouais ou Air Force One qu'il faudrait qu'on fasse une story d'un jour. Mais voilà, il est hyper bienveillant, etc. Et moi, je sais que c'est là en fait où je te parle d'anachronisme. Hein, mais c'est plus global que ça. Je vais pas juste m'arrêter sur le président des États-Unis, même si c'est le plus visible et le plus facile en fait à dénoncer. Mais d'un point de vue global, en fait, moi j'ai un vrai gros souci en fait sur ça et on verra. Je pense
non,
que je
passe
le
seul. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement,
là où je trouve que c'est un film d'un peu de vieille dame. Quoi,
le président des États-Unis qui se pointe et qui commence à faire des checks à toutes les gamines sur le terrain de basket.
Bon, c'est un truc de com et présenté
comme
ça.
Ouais, mais c'est un truc de com qui n'existait qu'à partir d'Obama.
Oui,
en
exactement.
Réalité,
mais ça
coup,
fait partie des nombreux trucs en fait.
Non,
c'est comme quand il lance des paniers, etc. Ouais. Qui dit ah je suis en train de me chauffer et tout, puis qu'il en relance un et qu'il réussit. Je veux dire à part Obama sur les 40 dernières années, je sais pas et même jusqu'à JFK peut-être que tu aurais pu imaginer JFK faire ce genre d'opération mais c'est vrai que c'est très compliqué d'imaginer Bush père, peut-être Bush fils quoi.
Bush fils l'a fait avec ça. Watch This Swing là.
Ouais,
mais après en fait le truc c'est que je pense que à part les vieux blancs, tu vois, je veux dire personne le trouvait cool hein, Bush fils.
Donc
en fait le truc si tu veux c'est que j'ai du mal. Enfin tu vois Obama c'est malheureusement ça fonctionnait tu vois. Mais après c'est
ce qui est compliqué avec ce personnage du président c'est qu'il est nickel. C'est ça aussi qui est, c'est là, en fait, où le film manque aussi de profondeur, je trouve aussi. Il est nickel chrome, le mec. Il y a juste, en fait, un de ses, alors je crois que c'est un des chefs de sa sécurité, là, qui est l'Asiate, là.
Ouais.
Je me rappelle plus si t'as son nom et tout, qui dit à un moment, c'est comme tous les autres, c'est un gros écocentrique, malade.
Lui, il lit.
Mais lui, au moins, il lit. Ouais. Voilà. Et c'est le seul moment, en fait, où on te met une petite touche en fait sur le personnage, on te dit ah éventuellement c'est quand même il est quand même pas si bien que ça quoi. Mais sinon la peinture qu'elle fait quand même de ce personnage là et je pense que
est vertueuse
et ouais je pense que si encore une fois au regard de ce qui se passe aujourd'hui et encore une fois pas uniquement aux États-Unis j'insiste en fait là-dessus énormément au regard de ce qui est en train de se passer et tout là comment veux-tu que moi je rentre dans l'histoire ? Ce n'est pas possible.
Écoute, moi...
Et c'est pas un film qui parle en fait de.
Après, encore une fois, je veux dire, je suis désolé, hein, je veux dire, mais et pas que aux États-Unis, mais bon, enfin après, il y a beaucoup de choses qui donnent le là, hein, tu vois. Et je veux dire, et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas hein, aussi, tu vois. Mais le truc, c'est que l'année 2025, et là, on peut même partir du principe qu'il a été tourné en 2024, le film, tu vois. L'année 2025, si tu veux, elle a juste cueilli tout le monde, hein. C'est-à-dire que en fait, personne s'attendait à ce que ça parte aussi à ce point-là dans toutes ces directions-là.
D'accord, mais d'accord.
Même si
quand
tu fais
même,
un comparatif,
en fait, Steph, en 2024, même si le film était sorti en 2024, je pense que j'aurais eu les mêmes réflexions. J'en suis persuadé.
En tout cas, moi, je sais que ce que j'ai apprécié, en fait, si tu veux, voilà. Et encore une fois, je pense que je mets le crédit là-dessus d'avoir pu voir ça en salle, c'est que l'attention elle m'a cueilli vraiment. J'avais vraiment, en fait, moi, je suis, enfin. C'est en fait le truc avec des cinéastes comme Catherine Bigelow, et je veux bien encore une fois concéder certains éléments. Tu dis c'est un film de vieille dame quand tu parles de sa représentation de à la Obama du personnage de d'Idriss Elba, et je le concède. Hein, si tu veux, moi
dans la tête, je précise. Ouais, ouais. Je veux pas dire gérontophobie. Non, hein, non, non. C'est juste qu'il y a un moment d'âge où
elle est un peu dépassée.
Ouais, on a l'impression qu'elle est plus en phase avec son temps, ce qui a jamais été le cas de Catherine Bigelow, quoi.
Non, mais le truc en fait, si tu veux, c'est que je veux bien te concéder ces choses-là, mais d'un point de vue cinématographique, pour moi déjà c'est une cinéaste extrêmement rare, quoi. Je veux dire, elle fait un film tous les 36 du mois.
C'est pour ça que je l'attendais comme
voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que le découvrir en salle, avoir l'opportunité de pouvoir le voir en salle, avoir l'opportunité d'être pris par cette tension, etc., etc. Voilà, je sais pas. Enfin, nous malheureusement, en fait, ça en France, c'est que sur Netflix. J'espère que ça va quand même fonctionner sur certains spectateurs. Enfin, j'espère que nos auditeurs. Enfin, moi, j'aimerais bien vraiment savoir en fait si ça fonctionne sur eux d'un point de vue purement, tu vois, regarder ce film chez soi, ne pas être perturbé par tous les autres éléments, le popcorn, tout ça, etc. Enfin, peu importe ce que tu veux. Enfin, te faire griller des trucs. D'un seul coup, il y a le micro-ondes qui sonne et puis voilà, tu vois. Peut-être ça rajoute de l'ambiance, on va savoir, tu vois. Mais le truc, c'est que en fait, voilà, ça serait intéressant de vraiment, ça m'intéresserait de savoir, parce que moi, je sais que là, pour le coup, en fait, on s'est vraiment confronté.
Là, tu vas aller lire les commentaires.
Ah ouais, non, mais je lis tous les commentaires. Faut le savoir. Tiens, je réponds pas à tous. Des fois, je réponds ici, tu vois, dans les podcasts directement, mais en fait, je lis tous les commentaires. Et je suis obligé, on est obligé. Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que voilà, ça serait intéressant parce que c'est très rare finalement qu'on confronte vraiment nos points de vue et surtout sur un épisode à deux comme ça.
Ouais,
en fait,
on est à ce point-là pas d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas si fréquent, quoi.
Donc, House of Dynamite sur Netflix depuis aujourd'hui le 24 octobre.
Choisissez votre camp.
Voilà, choisissez votre
camp. Le bleu marine ou le blanc.
Le blanc Pixar.
Le blanc Pixar.
Voilà. Merci Julien.
Merci Stéphane.
Merci Jeanne à la technique.
Merci Jeanne à la technique.
J'ai pas mis mon petit mot au début pour commencer. En fait, mais bon, je le dis maintenant. Si jamais vous êtes resté jusque là, n'oubliez pas que on continue. En fait, la campagne du Tony Scott continue.
Et d'accord. Ouais, okay,
et oui,
bien
oui,
sûr.
C'est vrai. Puisque
on est à 150. On a dépassé
plus,
les 150.
Un peu plus de 150, quoi.
C'est bien.
Au moment où on enregistre, voilà. Donc, si vous voulez nous soutenir là-dessus, il nous reste qu'une semaine.
C'est un
donc,
bouquin unique, parce que moi j'en ai pas parlé encore, donc Stéphane, ce qu'il a fait en fait, parce que c'est quasiment Stéphane à 97% je pense,
ouais, 80...
le numéro, ça va être vous aurez, si vous aimez Tony Scott, en fait le cinéma de Tony Scott, je pense qu'il y a pas d'équivalent du tout en fait à ce qui va sortir et ce que Stéphane vous a préparé, c'est une œuvre unique, d'ailleurs qui risque d'avoir une exploitation internationale.
On aimerait, mais le truc c'est que c'est une des promesses que j'ai faites à la famille de Tony Scott.
Mais que ce soit au niveau du contenu, de l'icono et tout, vous allez avoir des infos, des trucs incroyables. Moi, sur ma toute petite contribution, en fait, c'était déjà émouvant.
Darius Wolski,
c'était déjà émouvant. C'était déjà plein d'anecdotes, en fait, improbables. Et moi, c'est tout petit, quoi. Donc, avec tout ce qui va arriver derrière, je suis sûr que ce sera un numéro en tout point homérique. Voilà. Donc,
j'ai laissé mon portefeuille, ma petite enveloppe.
Je le fais gracieusement.
Merci Julien.
Voilà. Je le fais gracieusement, vous avez entendu.
Donc voilà, c'est toujours, on est jusqu'au 31 octobre, c'est en précommande, donc voilà, le soutien, il se passe vraiment par là, en fait, hein, parce qu'en réalité, c'est ce que je dis souvent dans les émissions, et après, je laisse vraiment chacun libre, hein, mais c'est vrai que, en fait, c'est là où on récupère les fruits vraiment financiers, entre guillemets, de cette prise de risque avec Aquileos, parce qu'après, c'est distribué par Hachette prend un pourcentage conséquent, etc., etc. C'est normal, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que voilà. Donc,
bien que Bolloré un peu.
Bah voilà, c'est, tu vois, on va pas le laisser à la rue quand même, ce brave homme.
Pauvre
homme, tu vois, donc voilà quoi. Donc c'est jusqu'au 31 octobre, Tony Scott, et puis donc House of Dynamite, Catherine Bigelow, c'est quand même son nouveau film depuis 7 ans.
Ah ouais, quand même.
Voilà.
Faut au moins, à minima, se faire son opinion.
Même, voilà. C'est sur Netflix depuis aujourd'hui. Merci Jeanne, merci Julien,
merci
et merci
Stéphane.
À tous. À bientôt.